6h45, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier. Et les enjeux internationaux s'intéressent au Brésil, 46% contre 29% ou un peu plus des voix. Sans surprise, c'est le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro qui est en tête du premier tour de la présidentielle, mais il y aura un deuxième tour qui ne sera pas sans relancer les dés. Bonjour Olivier Daben.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous, professeur à Sciences Po, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Alors, 5 points au-dessus du meilleur score prévu par les sondages, ce résultat est d'abord une confirmation de l'ascension de Jair Bolsonaro, une validation de sa tactique provocatrice, quitte à cibler explicitement les minorités pour susciter le clivage, et une confirmation aussi du rejet du Parti des Travailleurs, miné par la corruption, et d'une désaffection plus largement de la gauche, comme dans d'autres pays en Amérique latine. Mais ce n'est pas le plébiscite espéré. Il faudra passer par le duel du deuxième tour et reprendre les débats abandonnés depuis son agression pour Jair Bolsonaro et creuser peut-être plus encore l'écart entre d'un côté cette majorité d'ennemis ou de déçus du Parti des Travailleurs et d'évangélistes, de l'autre un potentiel front républicain avec de nouveau le Parti des Travailleurs au centre. Moment déconcertant et bizarre, disait un éditorialiste d'O Globo, où apparaît, continue-t-il, une nouvelle réalité électorale arrivée avec beaucoup plus de force qu'on ne l'imaginait. Alors 147 millions d'électeurs, Olivier Daben, combien de divisions ou combien de Brésil? D'abord un chiffre qu'on n'a pas ici en France, c'est la participation pour ce scrutin. Est-ce que vous l'avez?
Oui, il y aurait à peu près 20% d'abstention, et si on ajoute les votes blancs qui sont aux alentours de 6%, les votes blancs qui sont aux alentours de 2%, pardon, et les nuls qui sont aux alentours de 6%, ça fait presque un total de 30%. Donc il y a une énorme réserve de voix ici que évidemment les candidats vont se disputer.
Alors voilà, et justement avec des tendances, on pourrait dire confirmées, mais quand même beaucoup moins nettes qu'annoncées. Par où commencer? Peut-être par les 29% pour le Parti du Travailleur. Finalement, c'est pas forcément un rejet complet du Parti des Travailleurs.
Non, le Parti des Travailleurs confirme qu'il est bien le seul grand parti politique qu'il y a au Brésil de nos jours. Hein. Un collègue disait il y a deux grands partis au Brésil, il y a le Parti des Travailleurs et il y a l'anti-Parti des Travailleurs, c'est-à-dire à peu près tout le reste. Et c'est vrai que Bolsonaro a réussi à concentrer sur sa candidature le rejet du Parti des Travailleurs.
Et alors, on va faire un peu d'arithmétique après, mais c'est vrai, juste un mot sur Haddad. Quand il a repris en main la campagne après Lula, il était à 9%, là 29%. Il a quand même une bonne réserve, là, comme vous le suggériez.
Ah, si, oui, d'un point de vue mathématique, il a une bonne réserve. On va peut-être faire des calculs dans un instant, si vous voulez. Mais moi, j'insisterai surtout sur la logique du vote utile, finalement, qui a prévalu pendant la dernière semaine de campagne et donc le jour des élections, parce que en fait, il y avait 13 candidats, si vous voulez, sur les 13, bon, il y en a deux qui se sont très nettement détachés, ce qui était quand même pas complètement prévu par les sondages. Et puis bon, il y en a un qui est en troisième position avec 12%, puis alors le reste, bon, 5%, et puis plein de candidats qui sont à moins de 1%. Donc il y a quand même un effet de concentration. Je pense que c'est ce qu'on appelle la logique du vote utile dès le premier tour.
C'est intéressant parce que ce vote utile, justement, on disait en tout cas avant le vote qu'il avait plutôt bénéficié à la candidature de Jair Bolsonaro, puisqu'il avait un peu siphonné les voix d'un autre candidat de droite, Geraldo Alckmin, ses électeurs s'étant reportés sur Bolsonaro plutôt gagnant. Là, ce qu'on voit en tout cas, c'est que sa tentative de triomphe ou de plébiscite au premier tour est mise en échec, non?
Oui, mais enfin, il fait quand même un score assez impressionnant, 46%. Pendant longtemps, il était resté en dessous d'un plafond aux alentours 28%. Dans les derniers jours de campagne, il était monté à 30-35%. Il est à 46%. Et comme vous dites, il a siphonné pas mal de voix. Notamment de la droite classique, Geraldo Alckmin, qui s'écroule complètement, il a moins de 5%, c'est quand même une énorme surprise pour le parti de la social-démocratie brésilienne, le PSD, de l'ancien président Cardoso, qui ne compte plus pour grand-chose aujourd'hui dans le pays. Ça, c'est quand même une énorme déception pour eux, une énorme surprise, et pas une très bonne nouvelle, évidemment, pour la démocratie brésilienne.
Et de l'actuel président Michel Temer, d'ailleurs. Juste un mot sur les déclarations des candidats, notamment celle de Jair Bolsonaro, qui disait hier, un peu déçu, qui pensait qu'il y avait eu un problème dans les urnes, qui expliquait ce score, qu'il allait faire une réclamation au tribunal supérieur électoral. Qu'est-ce que ça vaut dans le contexte?
Alors, il avait déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait aucun résultat si ce n'est sa propre victoire. Donc les choses étaient claires pour lui. Il devait gagner, oui. Sinon il allait accuser le système électoral d'avoir commis des fraudes. Bon, donc c'est pas vraiment une surprise. Je pense que effectivement, il avait créé une dynamique et il espérait les remporter le premier tour. Mais enfin, je pense que ça n'ira pas loin. Le système électoral brésilien est réputé comme étant un des plus sûrs d'Amérique latine. Donc ça ne laisse pas beaucoup de marge pour la fraude. Non, ça, c'est pas très sérieux, si oui. Vous voulez.
Et pour l'entre-deux-tours, justement, Fernando Haddad, lui, a pris le thème de la démocratie en danger. Hein, ce sont ces termes. Comme vous l'avez souligné, il y a encore une bonne réserve de voix, notamment avec ce candidat du centre incertain qui a fait 12,5% des voix, Ciro Gomes, qui s'est beaucoup gauchisé un peu avant l'été, pendant la campagne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quelle tournure elle va prendre, cette campagne?
Bah, effectivement, pour Fernando Haddad, la seule solution, c'est que il faut qu'il récupère les voix de tous les adversaires de Jair Bolsonaro et qu'en plus, il morde sur les abstentionnistes. C'est sa seule solution, hein. Sinon, ça va quand même être compliqué, parce que Jair Bolsonaro entame cette période d'entre-deux-tours avec pratiquement 20% 20 points d'avance. Donc, ça va être compliqué pour Haddad, mais rien n'est impossible. Et il se peut qu'effectivement, la rhétorique du front républicain, la défense de la démocratie, réveille une partie de l'électorat ou motive certains électeurs de la droite classique d'aller voter pour lui.
La rhétorique et l'arithmétique, en tout cas, qui plaident pas forcément en faveur du Parti des Travailleurs. Là, si on prend juste les 8 candidats qui ont fait au-dessus de 1% des voix, si on additionne les potentiels 3 petits de gauche et puis disons la moitié des voix de Gomes, ça fait jamais qu'un Parti des Travailleurs à 38%. Ça n'est pas suffisant, alors qu'il manque 3 fois rien pour Bolsonaro.
Non, c'est sûr, il faut absolument qu'il morde sur les abstentionnistes, c'est sa seule chance, et puis qu'il rallie à peu près tout le monde. Et il va falloir qu'il aille au-delà de la rhétorique du front républicain, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est susceptible de mobiliser un très large électorat au Brésil. Il va falloir qu'il parle des vrais problèmes et qu'a évoqué Bolsonaro pendant la campagne, l'insécurité, etc. Et qu'il propose des solutions. Je pense qu'il va falloir qu'il soit très pragmatique et pas simplement qu'il se batte sur le plan des principes, parce que ça, il a aucune chance de rallier une majorité derrière l'étendard de la défense de la démocratie.
Ouais. Et juste un dernier mot sur l'arithmétique. On a beaucoup dit qu'il y avait un invariant qui était ces 45% d'intention ou d'électeurs contre Bolsonaro. Est-ce que c'est une réalité indépassable, ça, même pendant l'entre-deux-tours?
Oui, c'est certain. On peut penser que Bolsonaro, il a fait le plein des voix et qu'il a, lui, pour le coup, de son côté, aucune réserve de voix disponible. Enfin, il est déjà très très haut, donc évidemment, c'est une belle victoire pour lui, mais on voit pas où il pourrait aller chercher d'autres électeurs. Donc en fait, tout va dépendre de la capacité de Haddad à rallier autour de sa personne un Brésil qui ne veut pas entendre parler de Bolsonaro. Et ils sont nombreux, comme vous venez d'indiquer dans les sondages, près de 45% des gens disent qu'ils ne voteraient jamais pour lui. Donc il y a un très fort rejet de Bolsonaro. Il va falloir que Haddad capitalise sur ce rejet et aille chercher des voix partout, y compris chez les abstentionnistes.
Et alors, comment il pourrait s'y prendre, puisque, justement, vous l'aviez dit, il va falloir parler des programmes. Certains prédisent un virage vers le centre des deux candidats. Mais c'est vrai que pendant ce dernier mois, Bolsonaro a été absent des débats. Est-ce que ça va pas lui être néfaste, justement, de se retrouver en duel et de devoir parler de son programme?
Bah, il faudra voir s'il accepte effectivement les duels ou s'il continue à jouer sa carte personnelle et en méprisant et en ignorant le reste de la classe politique et du système politique. Mais de son côté, Haddad, lui, je pense qu'il faut qu'il se détache de la figure tutélaire de Lula. Il faut qu'il montre que c'est un PT différent, qui est plus modéré, plus jeune, moins corrompu et qui a des options effectivement un peu plus au centre sur les questions économiques pour ne pas effrayer le monde des affaires qui a déjà déclaré qu'il soutiendrait Bolsonaro. Donc c'est vrai qu'il y a un défi dans la campagne de Haddad, mais il est capable de relever. À mon avis, ça va être très compliqué pour lui, mais c'est pas impossible.
Oui, en tout cas, il avait l'air assez confiant. Il disait Jair Bolsonaro aura du mal à débattre pour le deuxième tour. Il n'a pas d'équipe, pas de projet. C'est pas complètement faux. On a beaucoup parlé de Edir Macedo, l'évangéliste qui dirige l'Église universelle du Royaume de Dieu, et de Paulo Guedes, conseiller économique. Mais au-delà de ça, quel soutien il a politique réellement?
Ah non, c'est vrai qu'il a pas de programme. Ça fait un peu penser à Marine Le Pen quand elle a été accusée par Macron de pas avoir de programme. Là, c'est un petit peu la même chose. Il a passé tout son temps à faire une campagne extrêmement négative, extrêmement violente. Mais sur le fond, il a effectivement nommé quelques conseillers. Bon, Guedes, c'est un ultra-libéral si vous voulez. Donc pour les politiques économiques, on voit à peu près ce qu'il voudrait faire. Mais pour le reste, on est plutôt dans le brouillard parce qu'il n'a jamais vraiment défendu des idées claires à ce sujet.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on va suivre les réactions aujourd'hui, éventuellement la procédure au tribunal électoral. Et puis rendez-vous le 28 octobre pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle brésilienne, mais présidentielle pas seulement, également législative et pour les gouvernorats. On aura à en reparler. Merci beaucoup Olivier Dabenne pour aujourd'hui, professeur à Sciences Po et président de l'OPALC.